Guira FM, le journal.
Jean-Pierre Ramazani.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal de Guira FM. Publication du premier rapport sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique. Des explications sur le contenu de ce document dans ce journal avec notre invité Moussa Gassama. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RCA a visité la maison de la presse à Bangui. Le président du CNT appelle à l'apaisement à la veille de la campagne électorale. On fera le point sur le processus électoral avant d'évoquer la célébration à Bangui de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous.
Guira FM.
La MINUSCA et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont présenté vendredi 11 décembre à Bangui et à Genève le premier rapport public sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique. Suivez un extrait des propos du directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSCA et représentant du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Moussa Gassama, lors d'une conférence de presse ce vendredi à Bangui sous la présentation de ce rapport.
Ce qu'on a constaté, c'est d'abord de graves violations de droits à la vie, de mauvais traitements, des arrestations et détentions arbitraires, et le cas de la sorcellerie, la pratique néfaste, et aussi le problème des déplacés aussi. Il y a aussi, dans le rapport, les cas de violences sexuelles liées au conflit.
Qu'est-ce que ce rapport-là, ce document, révèle concernant le nombre de personnes victimes de violations de leurs droits en RCA?
Le rapport a confirmé 775 cas de violations des droits de l'homme, affectant presque 785 victimes. Donc ça, c'est le total. Et je le disais parce que c'est les cas qu'on a vérifiés. C'est pas seulement pour dire que c'est les cas partout, mais c'est les cas qu'on a vérifiés. Évidemment, il y a d'autres cas en dehors de ces cas qu'on a cités.
Nous reviendrons sur ce rapport avec Moussa Gassama, qui sera l'invité de la rédaction dans ce journal.
Guira FM.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RCA a visité vendredi 11 décembre la maison de la presse à Bangui. Dans son message aux journalistes présents dans ce lieu qui facilite le travail des hommes et des femmes des médias et sert de cadre d'échange entre eux, Aurélien Abenossi a réitéré son appel à la responsabilité des journalistes. On l'écoute.
Il faut que nous soyons très prudents. L'étape que traverse le pays, c'est une étape très fragile. Et vous savez, dans tout groupe, dans toute société, il faut qu'il y ait un groupe, il faut qu'il y ait une élite, et je considère que les hommes de presse sont une élite. Bien sûr, ils doivent s'outiller pour assumer ce statut d'élite. Sont une élite qui est capable de prendre le recul qu'il faut, de s'armer des règles de déontologie, mais surtout d'avoir le recul historique qu'il faut pour dire attention, là, on est en train d'aller loin. Là, il faut qu'on soit prudent. Parce que qu'est-ce qui compte en fait? C'est de sauver ce pays. C'est que ce pays puisse retrouver la paix. C'est que ce pays puisse retrouver une cohésion et une vie normale. Malheureusement, avec un micro, avec une plume, avec une caméra, on peut tuer. Mais on peut aussi sauver.
Et un atelier pour l'élaboration du planning de diffusion des messages des candidats aux élections a eu lieu vendredi 11 décembre à Bangui. Organisé par le Haut Conseil de la communication de transition, cet atelier a pour objectif de confectionner une grille de programmes spéciale pour la diffusion des messages des candidats aux élections, grille applicable aux médias publics. Explication de Tita Samba Sole, vice-président du Haut Conseil de la communication de transition, des propos recueillis par Julio Itade.
Le Haut Conseil de la communication a une mission de pouvoir confectionner un planning à l'endroit de tous les candidats ou leurs représentants pour pouvoir être sûr de l'accès équitable de tous les candidats sur les médias publics. C'est pourquoi nous avons souhaité que ce soit fait lors d'un atelier pour permettre aux uns et aux autres d'assister et de voir la véracité de ce planning et pour ne pas qu'il y ait des contradictions ou bien de l'opposition à ce que nous allons faire. Cet atelier vise donc à permettre aux candidats ou à leurs représentants de pouvoir participer au tir au sort afin de mettre un planning. Ce planning permettra aux candidats de pouvoir donner leur message au temps imparti par ce planning afin que chaque candidat puisse délivrer son message pour les électeurs, les potentiels électeurs qui pourront les choisir d'ici demain. Le Haut Conseil de la communication a donné plutôt une priorité aux radios et à la télévision publique. Ceci par rapport au texte en vigueur.
Le président du CNT, le Conseil national de transition, appelle à l'apaisement à la veille de la campagne électorale. Dans une déclaration vendredi 11 décembre au siège du CNT, Alexandre Ferdinand Guendé a pris la mesure de l'immensité du défi que représentent ces élections. « Nous devons tout mettre en œuvre pour ne laisser aucune place au risque d'échec », a déclaré le président du CNT. Suivez un extrait de la déclaration d'Alexandre Ferdinand Guendé.
« Les élections du 27 décembre 2015 qui doivent marquer la fin de la transition et consacrer le retour de notre pays à une vie constitutionnelle normale, constituent un défi majeur pour notre pays. Les défis sont si énormes que nous devons tout mettre en œuvre pour ne laisser aucune place au risque d'échec. Nous devons réussir ce pari avec l'histoire. Et pour cela, chacun doit jouer sa partition, car l'intérêt supérieur de la nation en dépend largement. Chaque Centrafricain doit faire montre d'un sursaut patriotique, de sagesse et de civisme afin de préserver notre pays contre le chaos et le désordre permanent.
À la veille du démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles en Centrafrique, la présidente de l'Autorité nationale des élections, Marie-Madeleine Nkwe-Ornaer, a demandé aux candidats de battre campagne selon les textes. Pour la présidente de l'ANE, chaque acte posé doit se faire dans ce sens pour alléger la souffrance du peuple. Marie-Madeleine Nkwe-Ornaer est au micro de Boris Ngouagouni.
Après 2 années de laborieux efforts pour organiser les élections de sortie de crise qui mettront fin à la transition politique dans notre pays, l'Autorité nationale des élections est aujourd'hui entrée dans la phase décisive de la tenue prochaine du premier tour des élections couplées présidentielle et législative du 27 décembre 2015. Conformément au chronogramme électoral, nous allons samedi 12 décembre 2015 rentrer dans la campagne électorale. En application des dispositions de l'article 60 du Code électoral, la campagne électorale est prévue pour une durée de 14 jours. Elle commencera donc le 12 décembre à 0h, c'est-à-dire aujourd'hui vendredi à minuit. Et elle prendra fin le vendredi 25 décembre 2015 à minuit. Toute propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.
Il y a quelques jours du référendum constitutionnel en Centrafrique, l'Autorité nationale des élections a pris le 10 décembre une décision autorisant les électeurs n'ayant pas encore reçu leur carte d'électeur de voter avec le récépissé d'enregistrement sur la liste électorale. Plus de détails avec le commissaire en charge des opérations électorales à l'ANE, Richard Guéret-Baba. Il est au micro de Guira FM.
Je tiens à apporter la précision suivante. L'ANE, dans une décision numéro 023 que l'ANE a prise il y a de cela 2 jours, les cas des électeurs qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, l'ANE a pensé que ces électeurs-là peuvent, à titre exceptionnel, sont autorisés à titre exceptionnel à voter avec leur récépissé d'enregistrement sur la liste électorale au référendum et au premier tour, au second tour des prochains scrutins. Mais je tiens à le préciser, le seul récépissé d'enregistrement sur la liste électorale ne suffit pas. Il va falloir que, en plus de ce document, l'électeur puisse en sa possession ou accompagner le récépissé d'un des documents qu'il avait utilisé pour son enregistrement sur la liste électorale. Ça veut dire simplement que l'électeur qui n'a pas reçu sa carte d'électeur peut voter avec son récépissé accompagné de l'une des pièces suivantes. La carte nationale d'identité ou l'acte de naissance ou un jugement supplétif, le passeport ou le livret familial ou le livret de pension civile ou militaire, etc.
Guira FM.
Le processus électoral sur les rails à Berberati. Avec le soutien de la MINUSCA, l'ASPE, l'autorité sous-préfectorale des élections, a réalisé des avancées significatives. Selon le président de cette structure électorale, Mathurin Moyo Nguya, plus de 166 000 personnes se sont inscrites sur la liste électorale et Berberati est prête aux rendez-vous électoraux à venir. Mathurin Moyo Nguya a fait cette déclaration le 8 décembre à l'occasion de la visite électorale de la communauté internationale à Berberati. On l'écoute.
Ce processus a permis l'inscription d'environ 166 309 électeurs sur 174 636 prévus pour la préfecture de la Mandé-Kadéi en général, soit un pourcentage de 95,35. Ces électeurs sont répartis dans 509 bureaux de vote. Pour la commune de Berberati en particulier, nous avons enregistré 27 127 électeurs répartis dans 63 bureaux de vote.
Comprenant les difficultés qui pourraient éventuellement surgir lors des opérations électorales, Parfait Onanga Anyanga, chef de la MINUSCA, rassure de la disponibilité de son organisation de continuer à appuyer le processus électoral.
Vous n'allez pas seulement organiser une élection, vous avez plusieurs élections, la vie du pays, votre expérience, vous allez la transmettre à d'autres. Et on se félicite du fait qu'il y a des formations qui se font désormais, de la base au sommet, parce que c'est cela, l'appropriation nationale. Il faut vraiment la protéger jalousement. Et voilà pourquoi le propos de Charles est très fort, l'image qu'il a trouvée est très forte. C'est la vie du pays qui est entre vos mains. Et je crois que ceux qui n'ont pas reçu leurs indemnités les recevront. Donc vraiment, vous avez nos encouragements. Lorsqu'il y a des difficultés, parlez-en à vos collègues, parce que nous sommes dans ce partenariat ensemble. Et nous sommes disposés à vous aider à relever les uns après les autres les défis qui se poseront à ce processus.
Et puis la MINUSCA a organisé jeudi une formation à destination des partis politiques de la Nana Mambéré. Les différentes sections de la MINUSCA ont expliqué toutes les subtilités du processus électoral. Les précisions avec Adrien Blanc.
Qui fait quoi? C'est la question qui taraude les différents acteurs du processus électoral. Ils étaient une cinquantaine dans la salle de conférence de la MINUSCA à Boire ce jeudi. Ils ont découvert par exemple que c'était l'ANE qui délivrait les accréditations aux observateurs des partis politiques.
Aux élections passées, c'est les partis politiques qui délivrent les mandats à leurs observateurs. C'est à l'ANE maintenant de nous soutenir les partis politiques.
Il y a des démembrements dans les sous-préfectures et les communes. Pourquoi pas donner le pouvoir à ces démembrements lorsque les listes des observateurs sont arrivées et ils donnent leur accord.
Un représentant de parti politique demande comment un militaire en service fait pour voter.
Il fait sortir sa carte militaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant lui donner l'autorisation de voter?
Réponse d'une membre de la SPE de Boire.
Si c'est un ordre de démission, si c'est un arrêté ou un décret, il se présente dans un bureau quelconque avec ce papier-là. Et son récépissé, on va le faire voter seulement pour le présidentiel.
Après 7 heures de formation, Chrismé Malétiasson nous donne un exemple de ce qu'il a appris.
Au départ, moi, je pensais que pour faire un mouvement là, on peut se lever comme ça. Ou bien déposer au niveau du gouvernement. Mais par rapport à ce que je venais de voir, il y a des procédures pour faire un mouvement.
Amat Mbaye de l'association Aran a obtenu une réponse à sa principale préoccupation.
Les droits de l'homme, les abus, les violences faites par les forces de l'ordre, les autorités administratives. Parce que nous avons besoin d'être protégés et d'aller à des élections apaisées.
La ministre résidente Marie-Noëlle Koyara était présente à la formation. Elle a exhorté tout le monde à voter massivement dimanche.
Guira FM.
La RCA, comme les autres pays du monde, a célébré le 10 décembre, à l'école Sainte-Thérèse de Bangui, la Semaine mondiale de l'éducation pour tous, sous le signe de la paix. La cérémonie marquant le lancement de cette semaine a été présidée par le chargé de mission en matière de l'éducation au ministère en charge de l'éducation nationale, Clément Gouaka. Il a rappelé à tous que la place de l'enfant est à l'école et non dans les groupes armés.
Comme vous le savez, chaque année, avec l'appui de l'UNESCO, nous célébrons la semaine de l'EPT, éducation pour tous. Pour cette année, nous l'avons placée sous le signe de la paix. Et je suis très content de voir que l'école Sainte-Thérèse a bien compris le message. Nous avons entendu dans tous les sketchs et récitals que vous nous avez proposés. Le tout, c'est la paix. Le tout, c'est une éducation. Parce que si vous avez la paix, vous allez assurer une bonne éducation. Et sans une éducation, il n'y a pas de développement. L'école doit être inclusive. Le dernier sketch l'a si bien démontré. Il n'y a ni chrétien ni musulman dans une école. Il n'y a que des élèves, des citoyens et des citoyennes de demain. Nous comptons sur vous. Aux autres qui ont pris les armes, ce n'est pas le devoir, sinon le métier d'un élève, d'un jeune, d'un enfant. C'est l'éducation, c'est l'avenir de demain et on le prépare uniquement dans une école.
Au micro de Boris Ngouagouni, la directrice de l'école Sainte-Thérèse, sœur Marie-Stella Bocol, a indiqué que cette manifestation permet de rappeler la place combien importante de l'école dans la vie d'un enfant.
Cette manifestation, c'est pour réfléchir sur le thème qui s'intitule « Le retour à l'école égale retour à la paix » ou synonyme de la paix. Le message que je peux lancer, c'est demander aux parents et puis aussi aux groupes armés qui continuent de semer la terreur, d'arrêter et de laisser l'opportunité à nos enfants de profiter pour la chance, car ces enfants-là sont l'avenir de demain. Et si nous faisons la guerre, nous empêchons ces enfants d'évoluer, nous empêchons l'avenir de demain. Alors laissons les enfants venir à l'école.
Invité de la rédaction. Guira FM.
Retour sur l'actualité avec la publication ce vendredi du tout premier rapport sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Explication de notre invité Moussa Gassama, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSCA et représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Moussa Gassama, la MINUSCA et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont publié ce 11 décembre le tout premier rapport sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique. Alors, quelle est la période couverte par ce rapport et aussi quelles sont les grandes lignes de ce document?
Merci. Le rapport couvre du 15 septembre 2014 au 31 mai 2015, c'est-à-dire depuis la passation de service de MISCA à la MINUSCA.
Qu'est-ce que ce rapport révèle concernant le nombre de personnes victimes de violations de leurs droits à RCA?
D'abord, les grandes tendances que vous avez posé la question aussi. Ce qu'on a constaté, c'est d'abord de graves violations de droits à la vie, des mauvais traitements, des arrestations et détentions arbitraires, et le cas de la sorcellerie, la pratique néfaste, et aussi les problèmes de déplacés aussi. Il y a aussi dans le rapport les cas de violences sexuelles liées au conflit.
Qu'est-ce que ce rapport-là, ce document, révèle concernant le nombre de personnes victimes de violations de leurs droits à RCA?
Le rapport a confirmé 775 cas de violations des droits de l'homme, affectant presque 785 victimes. Donc ça, c'est le total. Et je le disais parce que c'est les cas qu'on a vérifiés. C'est pas seulement pour dire que c'est les cas partout, mais c'est les cas qu'on a vérifiés. Évidemment, il y a d'autres cas en dehors de ces cas qu'on a cités.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins quel genre de cas ont été donc signalés dans ce rapport?
Parmi les 775, il y a 200 cas de violation du droit à la vie, c'est-à-dire le meurtre. Pour les cas de mauvais traitement, il y a 433 cas qu'on a pu recenser.
Alors quand vous parlez de mauvais traitements, c'est-à-dire
des cas qui sont passés à la tabac, qu'on l'a battu comme ça, comme soit on a coupé quelque chose ou bien on
mutilé
quelque chose,
maltraité en général.
Voilà, maltraité. Oui, ça c'est là. Donc ça, on a 433 cas qui affectent presque 400 victimes. Donc c'est seulement sur catégorie. Il y a plus de 400 victimes.